Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.
Je vais vous poser une question, puis je vais vous donner 30 secondes pour y réfléchir sincèrement. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, j'aime les cœurs à cœur, j'aime quand on est honnête, quand on est authentique les uns avec les autres. Alors vous n'allez pas répondre, mais je vous demande de répondre pour vous-même. Comment tu vas aujourd'hui? Comment va ton cœur, réellement? Je sais que si je te le demandais, comme ça je te croisais dans la rue, ta réponse serait sans doute « ça va ». Et moi, dans ma politesse suisse, je dirais « trop bien ». Puis on continuerait la journée, n'est-ce pas? Mais là, prends un instant. Comment est-ce que tu vas? En 2016, il y a une étude de l'Office fédéral de la statistique en Suisse qui montrait que moins de 40% de la population était satisfaite. Moins de 40% disaient « ça va bien » quand on leur demandait de répondre à cette question. 2016, c'est pas il y a trop longtemps. Ça varie un peu en fonction de l'âge, en fonction de la situation de vie, la situation financière, mais en gros, moins d'une personne sur deux va bien. En gros, moins d'une personne sur deux va bien. Quand on parle de ça, on pourrait tout de suite partir et se dire « ok, il faut qu'on parle d'être satisfait ». Puis c'est vrai, il y a une histoire dans le christianisme, une histoire de savoir se contenter, de pouvoir être réjoui quoi qu'il arrive. Il y a des ordres très précis de l'importance de la joie qui est un fruit de l'esprit, c'est tout à fait vrai. Et puis en même temps, il faut être aussi équilibré. Puis je vais vous parler ici d'autre chose. Je ne vais pas vous parler du contentement, je vais vous parler de savoir se réjouir vraiment et savoir pleurer vraiment. Savoir se réjouir réellement, mais savoir pleurer aussi réellement. Et c'est aussi tout à fait biblique, vous le verrez. Je pourrais poser ici qu'il n'y a pas eu de haut et de bas dans la semaine qui vient de s'écouler. Je suis sûr que la plupart, vous direz, il y a eu des super moments, puis il y a eu des moments bien plus difficiles. Puis des fois, les hauts et les bas sont assez équilibrés, d'accord? C'est un petit haut. Des fois, c'est « oh, j'ai eu mon dessert préféré ». Un petit haut. Bon, si tu aimes vraiment la nourriture, là, c'est un grand haut, mais... Puis des fois, les petits bas, c'est oh, « le voisin avant moi, dans mon immeuble, il n'avait pas bien nettoyé la machine à laver. » Là, c'est, ça m'a pris du temps dans ma lessive. Bon, c'est un petit bas. Tu comprends que c'est difficile, mais ça va, il y a pire. Hein. Mais peut-être qu'il y a eu des vrais bas dans ta semaine, puis des vrais hauts dans ta semaine. Cette semaine, ça c'est pour moi, on a fêté, on a pu célébrer, on a pu partir avec mon épouse Janet pour nos 10 ans de mariage. C'est un vrai haut, ça. C'est un vrai haut, n'est-ce pas? Le jour de notre départ, on est parti mercredi. Le jour de notre départ, on a appris que quelqu'un qui est cher à notre cœur venait de perdre son père. Et c'était quelqu'un de très proche à nous. Ton voyage prend tout de suite un autre goût, hein. Et puis, en rentrant, on a pu passer du temps avec la famille, on a pu pleurer avec la famille. Et le jour d'après, hier, on célébrait un mariage. Je te parle de haut et de bas. Hein. Des moments vraiment pénibles. Des moments où tu n'as pas les mots, des moments où, à part les larmes, tu ne sais pas quoi dire. Puis d'autres moments où tu te réjouis, puis où il y a des perspectives, puis de l'espoir, puis de l'amour, et puis des vrais hauts et des vrais bas. Quand j'avais à peu près 20 ans, il y a ma grand-maman qui est décédée. Elle est décédée au Congo. Et... elle est décédée littéralement un mois avant que moi j'arrive au Congo. Et j'avais organisé ça avec mon père, de pouvoir aller au Congo. C'était la première fois que j'y allais. Et je me réjouissais particulièrement de voir ma grand-mère. Et un mois que j'arrive, elle est décédée, juste avant. Et en arrivant là-bas, on a vécu, puis j'ai parlé avec mes oncles et mes tantes, et j'ai appris, alors que j'avais plus de 20 ans, ce que ça veut dire de vraiment vivre un deuil. Parce que ici, en Occident, dans la culture occidentale générale, on ne sait plus vraiment pleurer. On ne sait plus vraiment s'arrêter. On veut plein de choses, mais pas forcément pleurer. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on doit réapprendre à pleurer et réapprendre à vraiment se réjouir. Vraiment, vraiment faire la fête. Tu sais, aujourd'hui, on se réjouit comme ça. Super, super. Donc là, ton enfant fait un truc incroyable et en tant que papa, c'est mon enfant, je suis trop fier. Aujourd'hui, on se réjouit en postant des choses sur les réseaux sociaux. Meilleur moment de ma semaine. Petite photo. Mais on ne sait plus vraiment pleinement se réjouir, célébrer, fêter. Et puis on pleure en disant « je suis désolé, je suis navré ». Mais on ne sait plus vraiment pleurer non plus. Si vous ne me croyez pas, écoutez ce que le responsable de l'Église d'Angleterre a dit. L'Église ne sait plus se lamenter, mais l'Église ne sait plus non plus se réjouir. Ce que l'Église fait le plus, c'est de vivre une satisfaction désengagée. L'époque dans laquelle nous sommes cherche à comprendre, à expliquer, à critiquer, mais pas tellement à vivre. On cherche à comprendre, on cherche à expliquer. Quand il y a quelque chose qui se passe, ah, mais je comprends, mais ça devrait être parce que. Puis... Et là, si tu as déjà vécu un moment où tu pleures, tu as envie de dire à la personne qui essaie de t'expliquer, tais-toi. En ce moment, je souffre. Je ne cherche pas une explication. Je pense que c'est grave pour trois raisons. Puis je vais te les dire tout de suite d'entrée. Quand on se désengage de cette façon-là, on devient des spectateurs critiques plutôt que de devenir des acteurs. On va le voir tout de suite après, mais quand tu prends cette posture-là, puis tu te désengages, puis tu ne vis plus émotionnellement, tu deviens juste un critique qui regarde les choses, puis qui peut expliquer pourquoi, comment, et puis c'est normal, c'est difficile en ce moment, coronavirus, voilà les statistiques, voilà ce qui se passe. Et... Puis en parallèle, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui perdent leur travail, puis nous, on est un peu l'amnés. Il semblerait que la... Non, la Confédération l'a bien géré quand même. Par rapport à la France, on est quand même beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que c'est grave? Deuxième raison, on quitte tout un élément central de ce que nous sommes. Dieu nous a fait avec des émotions. Je le répète, j'ai l'impression que c'est vraiment deep et profond, que ça doit nous surprendre là. Dieu nous a fait avec des émotions. Et quand on ne vit plus nos émotions, en fait, on ne parvient plus à être pleinement présent. Et plusieurs personnes disent, c'est pas une surprise s'il y a autant de nouvelles maladies, notamment des burn-out, des choses comme ça, c'est qu'on retient tout, on n'exprime rien, on essaie de comprendre, d'expliquer, puis au bout d'un moment, c'est ton corps qui éclate. Puis en fait, ça n'allait pas, mais tu ne l'as jamais exprimé. Les hauts et les bas. Puis tu gardes ça, tu essaies de comprendre, de justifier, de donner des bonnes raisons. Troisième chose grave qui se passe. Quand on ne sait plus se lamenter et se réjouir, on ne parvient plus à connecter avec les autres parce qu'on devient émotionnellement désengagé. Et la connexion, elle se passe quand on engage avec nos émotions. Quand quelqu'un souffre vraiment, puis je m'assois, puis j'essaie de lui expliquer sa souffrance, je ne connecte pas avec lui. Quand je pleure avec lui, c'est différent. On sait plus se lamenter, on sait plus se réjouir. N.T. Wright, un brillant théologien, dit la chose suivante. Beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui sont là parce que nous n'avons pas le courage de faire face et de confronter ce que nous vivons. Beaucoup de défis face auxquels on est, c'est parce qu'on n'ose plus faire face à ce qu'on a au fond de nous. Pourtant, c'est fascinant quand on étudie la Bible de voir le nombre d'occasions que Dieu a données à son peuple pour célébrer. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, des fois c'est un peu difficile de lire l'Ancien Testament quand on n'a pas une vision générale, quand on n'a pas une approche générale, surtout qu'aujourd'hui on veut que tout se passe en moins d'1h30 parce que c'est à peu près le temps de 2 séries, puis ça te prend un peu plus qu'1h30 de lire l'Ancien Testament, alors t'abandonnes. Mais si tu vois l'Ancien Testament, c'est fou, c'est Dieu qui se révèle, qui explique à son peuple, c'est le début de la lettre d'amour merveilleuse qui va bien sûr prendre toute une tournure avec le Nouveau Testament, mais c'est intéressant de voir comment Dieu dit, il faudra que vous fassiez la fête en fait. Ok, vous allez vivre ça, mais attendez, avant qu'on continue, on va juste... C'est Dieu, j'ai l'impression que c'était le meilleur organisateur de fête qui soit. On est sorti de là, trop bien, arrêtez-vous, avant la prochaine étape, on célèbre. On célèbre, tue un bon animal, fais un bon barbecue, amène des gens, gars, fais la fête. Allez, 1 semaine de fête, c'est parti. Et c'est Dieu qui demande ça. Et c'est Dieu qui demande ça. Puis il y avait aussi des indicateurs clairs sur comment pleurer. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu es mal à l'aise avec tes pleurs à toi. Tu es même mal à l'aise avec... Tu dis, mais comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Ils étaient tous extrêmement puissants parce qu'ils déchiraient leurs vêtements. C'est fou cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui arrive, qui dit « Hey, j'ai perdu ma maman. » Non ! Tu déchires ton ventre. C'est quoi, calme-toi, là, j'ai juste perdu ma maman, c'est bon. Non ! La suite, ils jettent des cendres sur leur tête. Ils pleurent abondamment, ils se lamentent abondamment, ils se tiennent avec toi abondamment. C'est fou quand même. C'est fou de penser à ça un instant. Ils avaient des habits de deuil. Des habits, tu sais, dans ton armoire, t'as juste la section de deuil. Puis c'est pas des belles chemises noires, c'est des vieux habits tristes. Tu prends un peu de cendre, de la poussière, tu la mets sur la tête. Et tu marches triste. Et tu prends le temps de pleurer. Ce sujet est vraiment intense et profond, puis il y aurait plein de choses que j'aimerais vous dire par rapport à ça, mais on l'aborde un petit peu dans cette fin d'été. Pour moi, il connecte avec d'autres messages qu'on a eus pendant cet été. On a eu différents messages, il n'y avait pas forcément une ligne rouge, mais tu peux les réécouter. David Potier a parlé du cœur et puis de nos rêves dans les cœurs. Ma sœur a parlé du cœur aussi, et puis elle a parlé de poursuivre et puis de faire la volonté de Dieu afin que lui nous donne des bons rêves et puis qu'il nous aide à réaliser ses rêves. Et j'ai l'impression que ça touche cette dimension du cœur et puis de reconnecter avec qui Dieu a dit qu'on devait être, comment on peut le faire. Et je crois que c'est vraiment important qu'on apprenne à vraiment célébrer et aussi vraiment à pleurer. On va prendre maintenant un passage biblique, enfin, certains diront. Il ne va pas être affiché. On va le lire, c'est une histoire de Jésus. Il contient, ça c'est des petits fun facts, c'est des trucs comme ça, tu pourras le dire et puis avoir l'impression de connaître ta Bible. Il contient le verset le plus court du Nouveau Testament. Jésus pleura, deux mots. Très simple. On va lire ce moment où Jésus pleura et puis que tu comprennes l'histoire parce qu'on ne va pas tout lire, c'est assez conséquent. C'est dans Jean 11, on va lire les versets 28 à 36. Ça ne va pas être affiché. Si tu as une Bible avec toi, je t'encourage à la prendre. C'est le seul moment où tu es OK de prendre ton téléphone portable. Non, ce n'est pas vrai. Jean 11, 28 à 36. Et en fait, c'est l'histoire où Jésus va pleurer parce que Jésus va perdre un ami à lui. Il s'appelait Lazare, c'était quelqu'un qui était dans l'entourage de Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples directs, mais il était comme... On sait que Jésus l'aimait fort, c'était un ami à Jésus. Ils avaient plusieurs contacts durant la vie de Jésus. Et puis Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie, qui reviennent aussi à plusieurs fois dans l'histoire de Jésus. Et là, on va voir Jésus qui arrive. Et puis si tu lis depuis le début du chapitre 11, tu vas voir l'arrivée de Jésus. Tu vas voir même avant l'arrivée de Jésus, quand on lui dit « Hé, il y a Lazare, ton ami qui est malade. » Tu vas voir que Jésus n'y va pas tout de suite. Puis les versets qu'on va lire, c'est quand Jésus est arrivé déjà. Il a déjà eu toute une discussion avec Marthe. Et puis on va juste lire la discussion qu'il a avec Marie. Et puis un petit peu de la suite. Je commence à lire Jean 11, les versets 28 et suivants. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le maître est là et il te demande de venir. » Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore rentré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent qu'elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande « « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Ils lui répondent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, « Regardez, il aimait beaucoup Lazare. » Tout le monde pleure dans cette histoire. Marthe était en train de pleurer, elle parlait avec Jésus, elle retourne vers sa sœur, elle dit, « J'aime trop ce genre de moment un peu, je ne sais pas si tu as déjà vécu des veillées, des endroits où tout le monde pleure. » Sans doute que Marthe et Marie avaient une place significative. Elles n'étaient pas cachées, elles étaient devant, les gens étaient venus pour les consoler. Et puis il y a Marthe qui s'approche discrètement de Marie. Il y a Jésus qui est là. C'est Jésus, c'était un moment, il commençait à pas faire l'unanimité. Là, c'était un petit peu, il fallait pas en faire un trop de bruit. Mais Marie, elle entend ça, elle se lève tout de suite, elle court vers Jésus, elle se met au pied de Jésus, elle se met à pleurer. Et on nous dit, et là tu vois déjà l'entourage, on nous dit tous ceux qui étaient venus pleurer avec elle la suivent en disant elle va pleurer là-bas, on va pleurer avec elle là-bas. Puis ils voient Jésus, puis ils ne comprennent pas trop, puis Marie s'approche de Jésus, elle discute avec Jésus, Jésus est troublé de ce qu'il entend, alors qu'il savait que Lazare était mort au passage. Si tu lis avant, Jésus a déjà annoncé à ses disciples que Lazare était mort. Donc il n'est pas troublé de l'annonce, et ça je crois qu'il faut juste le souligner. Jésus n'est pas troublé parce qu'il est choqué, surpris. Il le sait. Il sait que Lazare est mort. Et il sait aussi qu'il ne va pas rester mort. Parce que ça, spoiler alerte, la suite de l'histoire, quand tu continues là, attention, Lazare ressuscite. Jésus appelle Lazare à sortir du tombeau, littéralement du tombeau. Tu vas lire, c'est incroyable. Tu croyais que la Bible, c'était plat. Hein, tu verras, il y a des retournements de situation fous. Donc Jésus sait tout ça. Mais je crois que ça, c'est vraiment une clé pour nous. Quand tu vois la peine, quand tu vois la tristesse, quand tu vois ce que les gens vivent, il n'est pas désengagé de ce qui se passe. Il ne dit pas, ressaisis-toi, Marie, voyons chez Jésus, c'est bon. C'est bon. Il voit la tristesse, il voit les pleurs, il est troublé. Lui aussi, il est peiné. Et il se met à pleurer avec. Marie pleurait. Les Juifs qui étaient avec elle pleuraient. Mais Jésus pleure aussi. C'est intéressant. C'est intéressant de voir cette histoire. C'est intéressant d'étudier un peu cette histoire. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais j'ai envie de te donner 4 raisons de pleurer et de célébrer. Ce matin, j'ai juste envie de te donner 4 bonnes raisons de chercher à reconnecter avec ton cœur. De chercher à pouvoir vraiment célébrer quand c'est le temps de célébrer et vraiment pleurer quand c'est le temps de pleurer. La première, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais si tu pleures pas, tu peux pas devenir un acteur du changement. Si tu célèbres pas, tu peux pas devenir un acteur du changement. Je suis convaincu de ça. Quand tu désengages émotionnellement, hop, petite parenthèse, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, j'ai pas peur de vos amen. Si vous êtes d'accord, les ouch, les amen, les yes, vous pouvez le faire, c'est bon. Si tu ne connectes pas avec tes émotions, en fait, c'est tes émotions qui te poussent à l'action. Je vais nous égratigner un peu, je vais nous faire un petit peu mal, d'accord? Je me mets avec vous dedans, je gratte un peu, j'appuie là où ça fait mal, mais tout le monde est d'accord de dire que ce n'est pas juste, il y a de l'injustice qui se passe même ici, même en Suisse. On a avec l'Église tout quelque chose qu'on appelle Love Lausanne, pour dire on veut faire la différence, on veut rejoindre ceux qui ne connaissent pas, on veut rejoindre ceux qui souffrent. Il y a des espaces ici pour accueillir les gens, alors on est en été, on en parle moins. Mais en hiver, tu vois toutes les associations qui se lèvent. Il y a du problème ici de pauvreté, de gens qui... C'est pas aussi violent que dans d'autres pays, mais c'est aussi ici. Puis on est tous d'accord parce qu'on dit « Ouais, Love Lausanne, trop bien », mais on ne connecte pas émotionnellement. Alors on se dit « Bon, si j'ai rien d'autre à faire, peut-être je vais donner un coup de main. » Cette semaine, je parlais avec une personne de l'église et on était en larmes. Et ces larmes m'ont fait pleurer moi, elle disait, est-ce qu'on se rend compte le nombre de personnes qui ne connaissent pas Jésus? Et ce n'est pas juste une statistique de plus. C'est ce qu'on se rend compte, le nombre de personnes qui passent à côté de leur vie. Est-ce qu'on se rend compte le nombre? Et puis, elle me parle, elle me dit, excuse-moi de pleurer. Je dis, ne t'excuse pas. Laisse-moi pleurer avec toi. On doit réaliser ce qui se passe. On doit engager avec nos émotions. Sinon, on n'est pas mu à l'action. Tu vas regarder les gens qui ont décidé de commencer des œuvres humanitaires, écoute leur histoire. Quasiment tous, c'est la même chose. Ils sont dans un contexte X, ils voient une personne, ils rencontrent une situation, ils entendent parler, ils sont touchés dans leur cœur. Et ça les hante. Ils rentrent chez eux, ils disent, mais attends, il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable. Et ils voient des visages, ils se rappellent des noms, ils se rappellent des kilomètres parcourus. Puis ils disent, à partir de maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que les gens puissent avoir accès à de l'eau. Mais tu fais ça quand ça te prend émotionnellement. Si tu n'engages pas émotionnellement, voilà ce qui se passe. OK, sur la population mondiale, on est à peu près plus de 8 milliards. Il y a à peu près 30% qui n'ont pas d'eau. Bon, c'est quand même un problème. Est-ce que les pays peuvent faire quelque chose? Ça, c'est quand tu n'es pas engagé émotionnellement. Mais quand tu es engagé émotionnellement, tu te dis, qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je vais changer dans ma façon de vivre à moi? Qu'est-ce que je vais changer? Mais tant que tu n'engages pas émotionnellement, ben, tu restes juste passif. Tu restes juste passif. Jésus, quand il voit Marie qui vient, qui pleure à ses pieds, il est troublé profondément. Il est dérangé par ce qui se passe. Et rappelle-toi, ce n'est pas que son ami est mort, il le savait, ce n'est pas qu'il y a une résurrection qu'elle, il le savait, mais il est troublé par ce qui se passe. Et tu vois la question qu'il pose juste après. Emmène-moi vers le tombeau. Je ne peux pas rester là, ça me prend ce que tu me dis, ça maintient, amène-moi là-bas. On va voir ce qui se passe, c'est pas la fin de l'histoire. Il faut qu'on se mette à pleurer, mais aussi à célébrer, parce qu'on va devenir des acteurs. On va devenir des acteurs. Je ne suis pas d'accord d'être d'accord avec la phrase de ce responsable de l'Église d'Angleterre. Je ne suis pas d'accord que l'Église vive dans une satisfaction désengagée. Je le répète, il manquait des amen. Je ne suis pas d'accord que l'Église vive dans une satisfaction désengagée. Je ne suis pas d'accord de dire, nous on est contents. On se retrouve le dimanche matin et soir, on est un peu plus d'une centaine, Dieu est bon. Non, écoute, oui. Merci Seigneur pour la centaine qui vient, trop bien. Mais on va s'engager parce qu'il y en a plein qui vivent des situations et c'est pas OK, c'est pas ce que Dieu avait prévu, c'est pas OK. Je peux pas juste être là, bon, il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi tu m'as mis là? Qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ces problèmes? Qu'est-ce que tu me demandes de faire en ce moment, dans ma saison de vie? Et je veux pas te mettre la pression ici, on a tous des saisons de vie différentes. Mais ce n'est pas OK qu'on soit désengagé. Je suis pas en train de te dire que tu dois demain tout arrêter ce que tu fais et puis arrêter tes études et puis non. Mais comment est-ce que je vais engager avec ce qui se passe? Et ça commence par mes émotions. Ça commence par engager avec qui je suis, avec ce que je ressens, ce que je vis. La deuxième raison de pleurer et de célébrer, c'est qu'il faut qu'on fasse face à qui nous sommes pleinement. Je vais te donner ici des citations, c'est pas des citations, c'est des expressions qu'on utilise régulièrement. Mais arrête de pleurer. Allez, sois fort. Ça, c'est plus pour les gars, hein, mais t'es pas une chochotte. Et mon préféré, ça va aller. Non, mais écoute, je suis pas bobet. Je sais que ça va aller. Je suis pas en train de pleurer parce que j'ai plus d'espoir. Je suis en train de pleurer parce que ça fait mal. Je te parlais de quand je suis arrivé au Congo et puis que j'ai été pleurer sur la tombe de ma grand-maman. On pleurait à chaudes larmes. Moi et mon père, plus que les autres qui étaient déjà depuis un mois en deuil, mais on pleurait à chaudes larmes. Tu sais, mon oncle n'est pas venu en disant « Non mais c'est bon Yves ». On avait l'assurance de son salut. En d'autres termes, je sais que je vais revoir ma grand-mère, je sais qu'elle connectait avec Dieu. J'ai l'assurance de son salut. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me manquer aujourd'hui. Je me mets à pleurer sur cette tombe. Il n'y a pas un oncle qui m'a dit « Yves, t'en fais pas ». Non, ils sont mis à pleurer de nouveau avec moi. Parce que si tu pleures, ça me touche. Et si tu pleures, je pleure avec toi. Puis je me tiens là. On doit réapprendre ça, les amis. Nos émotions sont réelles. Ce n'est pas une erreur d'avoir des émotions. Il faut qu'on les accueille à nouveau. Dieu nous a fait ainsi. Les ignorer, les restreindre, c'est jamais une bonne solution. C'est hyper intéressant parce que les gens sont toujours mal à l'aise avec les émotions, surtout en Occident. Moi, ils m'ont très vite mis mal à l'aise. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un qui est sensible émotionnellement, on va dire. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est qu'une pub avec une histoire de savon peut me faire pleurer. Ils n'avaient pas de savon, tu sais. Les films pour enfants me font pleurer. Ok, je me sens moins seul, merci, on est ensemble. Comme d'un coup, il y a une histoire et finalement, le héros qui revient. Et mes filles sont là, je peux avoir du chocolat. Connecte avec ce qui se passe, bon sang. Mais c'est intéressant de voir comment les gens réagissent quand tu te mets à pleurer, quand tu te mets à avoir des émotions. Pour certains, quand Jésus pleure, ils disent, c'est sûr, il aimait Lazare. C'est sûr, il aimait Lazare. Mais il y en a d'autres, si tu continues, je t'ai mis que quelques versets, si tu continues, juste après, il y en a qui disent, oh, sans doute qu'il est triste parce qu'il n'a pas pu faire un miracle. Il y en a qui se disent, mais comment il a pu guérir en aveugle, mais il n'a pas pu guérir son ami. Il est triste parce qu'il n'est pas capable. Et je te dis ça parce que les gens ne vont pas toujours comprendre pourquoi tu as des émotions. Mais tu ne vis pas pour le regard des gens. C'est égal, Jésus ne s'est pas mis à... Ok, ils ne comprennent pas, je vais vous enseigner maintenant. Non, mais tant pis, tu penses mal. En ce moment, je pleure avec ceux qui pleurent. En ce moment, je me tiens avec eux. Je crois que si Jésus a pleuré, c'est parce qu'il a su faire quelque chose qu'on ne sait plus beaucoup faire, c'est être simplement présent. Mais on ne sait plus être présent. Intellectuellement, encore un peu, mais émotionnellement, on déconnecte complètement. On ne sait plus juste être là. Je vous parle beaucoup de deuil parce que je parlerai après de la célébration aussi. Et je crois que c'est vraiment un moment pour moi qui est marquant. Et notamment dans les différences de culture, il y a des cultures qui savent encore vraiment vivre et donner de la place à ça. Et récemment, c'était au tout début du confinement, j'ai un ami qui a perdu son grand frère. Et puis c'est quelqu'un qui vient aussi du Congo. Et il y avait notamment des veillées là-bas. C'est quelque chose culturellement, on met en place des temps pour pleurer. Et puis après 3-4 jours, peut-être moins 2 jours, il s'est énervé, où il a dit « Mais où sont mes amis ?» Parce que tous les autres sont venus pleurer avec nous. Mais mes amis ne sont pas venus. Et je me souviens, j'étais dans un groupe avec certains de ses amis, et il y en a une, extrêmement suisse, qui a dit « Ah, on ne voulait pas vous déranger ». Et ce n'est pas un reproche ici. Je vous parle d'une différence culturelle. Ce n'est pas du tout un reproche. Parce qu'après, j'ai dû accompagner un petit peu les deux pour comprendre ça. C'est juste une différence. Mais c'est, écoute, je ne voulais pas t'embêter. C'est un moment, tu pleures, je vais te laisser pleurer. C'est extrêmement respectueux, c'est extrêmement beau. Il n'y a aucun problème avec cette réaction. Mais ça démontre aussi comment on est. Et si on ne parvient plus à vivre nos émotions, on n'est plus présent, simplement. Et il faut absolument qu'on redécouvre ce que ça veut dire. Je crois sincèrement que ça réduirait beaucoup des maux dans notre société, beaucoup des problèmes dans notre société, si on arrivait à de nouveau être présent, à de nouveau connecter avec ce que les autres y vivent. Et je vais parler de ça, c'est mon troisième point, ma troisième raison. Il faut qu'on connecte. Jésus, il connecte avec Marie et avec Marthe en pleurant. Quand il se met à pleurer, il dit « on est ensemble dans ce que vous vivez maintenant ». Et vous allez tous connecter émotionnellement. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà allés voir un spectacle humoristique. C'est marrant et en général, il y a toujours autre chose. Et si tu regardes juste la vidéo sur YouTube, il faut vraiment que l'humoriste soit très bon pour te faire rire quand tu es seul. Quand tu vas dans une salle et puis il y a des centaines et puis que les gens rigolent à leurs blagues, tu trouves ça un peu plus drôle que si tu étais seul dans ton salon. Tu sais. Et il y a quelque chose qui se passe, d'un coup on rigole ensemble et quoi, et tu vas voir. Si tu vas juste observer un spectacle humoristique, regarde comment les gens rentrent et regarde comment les gens sortent. Tu vas voir que sans s'être échangé des mots, parce qu'ils ont rigolé ensemble, ils ont vécu quelque chose. Et c'est comme on est rentré, on était très individualiste, on était très dans notre truc à nous. On est voilà, j'ai regardé un spectacle, j'espère qu'il sera drôle, on verra. D'un coup, je sors, j'ai la banane. Hey, bonne soirée, ouais, bonne soirée. C'était pas mal, c'est là. Tu commences à connecter un peu plus avec les gens. On a vécu un truc émotionnellement ensemble. Je sais toujours pas combien tu gagnes par mois, je sais pas quel est ton travail, je sais même pas ton nom, mais on a rigolé ensemble. Ça a créé un lien. Ça a créé un lien. Et c'était bon. Vivre nos émotions nous permet de connecter avec les autres. Souffrir avec les gens, ressentir le vécu des gens, c'est aussi clé pour connecter. Je te parlais juste avant de cet ami qui a perdu son frère. Je suis allé à cette veillée et j'ai pris une heure et demie, juste une heure et demie. Et j'ai échangé aucun mot. Aucun mot. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, on s'est serré la main. Avec ceux que je ne connaissais pas. Ceux que je connaissais, je les ai pris dans les bras, on a pleuré un petit peu ensemble. Je me suis dit, je suis tellement désolé, je me tiens avec vous. Je me suis assis pendant une heure et demie. Et littéralement, c'était par vagues. D'un coup, il y avait deux personnes qui commençaient à pleurer. Et puis, tu sais, comme le rire, le pleur, c'est aussi un peu... ça se transmet comme ça. Donc, d'un coup, il y en a deux, trois qui pleurent. D'un coup, bah, tu te remets à pleurer aussi. Quelqu'un qui évoque un souvenir, ah, qu'on se met à pleurer. Là, on arrête. Et quelqu'un qui évoque un autre souvenir, on rigole. En mémoire de ce que la personne aussi a fait, ce qu'elle nous a apporté. Une heure et demie après, j'avais échangé aucun mot avec personne. J'ai serré la main à personne, j'ai fait un hug à tout le monde. D'un coup, on avait pleuré ensemble. Il y avait une connexion qui était réelle. Une connexion qui était réelle. J'ai pas besoin de te connaître. Merci, tata. Mais écoute, prends-moi dans les bras. On se tient ensemble. Si on ne parvient pas à reconnecter avec notre cœur et à vivre nos émotions, on ne parvient pas à connecter avec les autres. Et c'est très important. Surtout si on est chrétien. Parce qu'être chrétien, là, je te le donne, hein, spoiler alerte, tous ceux qui ne savaient pas c'est quoi être chrétien. Être chrétien, tu as d'office un mandat et une mission qui s'appelle faire des disciples. C'est tout un sujet, on en reparlera, t'en fais pas. Mais faire des disciples, ça veut dire aussi marcher avec des gens dans ta vie. Faire des disciples, là ce qu'on vit là, c'est pas faire des disciples. Là, ce qu'on vit là, c'est une fête, une réunion, une rencontre de famille, c'est très bien aussi, mais c'est pas faire des disciples. Faire des disciples, c'est marcher au quotidien avec quelqu'un. C'est partager des moments ensemble. Si tu parviens pas à connecter émotionnellement, tu parviens pas à marcher avec quelqu'un. J'en ai déjà parlé, mais très souvent, on a transformé l'Église comme dans une école plutôt que d'être une famille. Donc, on a fait un lieu où on transmet de l'information comme si l'information changeait la vie. C'est le vécu qui change la vie. Et pour le vécu, il faut marcher ensemble. Et pour marcher ensemble, il faut connecter avec les émotions. Le problème, c'est que nous, on connecte tant qu'on n'est pas dans les hauts et les bas. Ou alors, bon, tu me dis, j'ai réussi. Hey! Bravo, bravo pour ta réussite, c'est génial. Donc tu viens de me dire que tu as travaillé 7 ans, tu as eu des moments de down, tu as failli passer par des burn-out, tu as eu des sessions d'examen folles, 7 ans, bravo. Bravo, courage, c'est quoi la prochaine étape? Ou alors on connecte avec les gens, hey, j'ai perdu mon papa. Oh, il était malade? Ah non, je comprends. Ouais, quel âge? Ah c'est vrai, hein, les hommes en général, à partir de 50 ans, il faut quand même faire un peu attention. Il y a plus de cancer, on commence à expliquer, tu vois, on commence à expliquer, mais parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, on est comme... La personne, elle pleure, est-ce que tu veux un mouchoir, qu'est-ce que je peux faire? arrête de pleurer. Ça va aller. Plutôt que de dire, je vais pleurer avec toi. Laisse-moi pleurer avec toi. Je suis désolé. Ça, c'était mes trois premiers points. Mon dernier point, il sera plus court, mais il est décisif. Il faut absolument qu'on parvienne à célébrer et à pleurer et à se lamenter. Parce que c'est ça qui nous permet de lâcher prise et d'embrasser le mystère de Dieu. Là, les amis, ça c'est... Là, c'est un livre. Hein. Je vous donne juste l'introduction. En Occident, on ne laisse plus Dieu être Dieu parce qu'on veut comprendre Dieu. On veut expliquer Dieu. On veut donner des formules et puis un cadre à Dieu. Et tant qu'il est là-dedans, c'est bon. Et du coup, il ne faut surtout pas qu'on soit trop dans nos émotions, dans tout ça, parce que là, ça demande qu'on lâche prise. Tu vois, quand quelqu'un perd quelqu'un, je peux lui expliquer, bon, écoute, c'est normal, à partir de tel âge et tout ça, l'espérance de vie, voilà ce qui se passe, son régime alimentaire, tout ça, ça explique qu'il y avait quand même plus de probabilités, tout ça. Là, je contrôle. Alors que quand je pleure, je suis en train de lui dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est difficile. Je ne comprends pas. Regardez Jésus qui allait ressusciter Lazare. Juste après, il ressuscite Lazare. Il ne dit pas aux gens, arrêtez de pleurer, c'est bon, je suis arrivé, c'est bon. Il ne dit pas, arrêtez de pleurer, la mort, ce n'est pas la fin. D'ailleurs, si tu lis l'interaction entre Marthe et Jésus, tu verras, il parle de la résurrection, justement. Puis Jésus dit, non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Mais il pleure parce qu'il veut connecter avec eux. Puis il pleure, puis tellement souvent, les disciples sont comme nous. Il y a des moments où les disciples marchent, puis ils disent, pourquoi lui, il est malade? Tu peux nous expliquer, ça vient d'où? Jésus dit, lâche prise. Ce n'est pas ton job de tout expliquer, ce n'est pas ta place de tout expliquer. Lâche prise. Lâche prise, arrête de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Alors on en est arrivé, on veut même contrôler nos émotions, on veut contrôler notre degré de rire, on veut notre décibel de rire, notre degré de taper des mains. Si tu fais ça, c'est un like, si tu fais ça, c'est un cœur. Pendant le Covid, c'est un petit bonhomme qui fait un cœur. Mais lâche prise. Je célébrerai avec toi. Oser vivre nos émotions, c'est un moyen de laisser. Mais je ne comprends pas. J'abandonne. Et quand tu laisses, tu peux enfin entrer dans la dépendance à Dieu. Tu peux enfin dire, Seigneur, seul, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas envie de toi, j'ai besoin de toi. C'est deux choses différentes. Quand je maîtrise et je contrôle et puis que je donne un cadre à Dieu, je peux dire, Seigneur, dans ce cadre, j'ai envie de toi. Mais quand je lâche prise et que j'embrasse le mystère de Dieu, je peux dire, Seigneur, seul, j'y arrive pas. J'ai besoin de toi. J'ai envie de rassurer ici beaucoup de gens. C'est OK que des choses te dépassent. C'est OK que tu aies de la souffrance. C'est OK que ce soit difficile par moments. C'est OK. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais c'est OK que dans ce parcours, tu souffres. Maintenant, attends, ce n'est pas la fin de l'histoire. On ne va pas rester là-dedans. Et c'est ça qui est magnifique avec le deuil, parce qu'on a tous, d'une façon proche ou moins proche, expérimenté le deuil. Si tu vas dans certaines cultures où justement il y a encore le temps de deuil, il y a un temps de deuil. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la levée de deuil. Et c'est ce que j'ai découvert en parlant avec mes oncles. Ils m'ont dit, c'est normal que toi, maintenant, tu pleures. Mais dans 6 mois, tu ne pourras pas t'effondrer comme ça. Ce sera une autre étape, il y aura quelque chose d'autre. Mais maintenant, c'est OK que tu pleures. Non, on se tient avec toi, on pleure avec toi, vas-y pleure, c'est bon. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, il y a quelque chose qui te manque et tu lâches prise et tu dis à Dieu, je comprends pas, je suis énervé, j'aurais voulu une autre issue. Puis une fois que tu as pu libérer ça, tu peux te lever et dire, maintenant Seigneur, malgré tout, je décide de te suivre, je te fais confiance, malgré tout, je sais que tu as des bonnes choses pour moi. Je vais continuer puis je pourrai dire aux autres que tu es bon sans prétendre que tout doit être facile. Parce que tout n'est pas facile. Et si tu étudies l'Église primitive, c'est exactement ça qu'ils vivaient, des hauts et des bas comme jamais. Eux, ils se retrouvaient un peu comme nous, sans doute avec un chalet moins construit, peut-être l'isolation un peu différente, mais ils se retrouvaient comme ça, bord de la forêt, on prie, on loue, c'est génial, on va suivre Dieu, et puis 2 jours après, ils apprenaient, OK, il y en a 6 qui sont morts, tués à cause de leur foi. Et là, ils se retrouvaient, ils priaient, Seigneur, on va prendre soin de leur famille. Seigneur, on espérait qu'ils avaient d'autres projets pour eux, mais il y a une meilleure résurrection pour eux. On fait confiance, on va les revoir. Et chaque jour de plus que tu m'as donné, on va les vivre pour ta gloire. Mais ils nous manquent aujourd'hui. Puis on se rappelle à leurs souvenirs. On se rappelle de qui ils ont été au milieu de nous, on les célèbre encore. Puis on pleure maintenant. C'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la... Mais c'est la saison dans laquelle on est. Je terminerai en disant, vous savez, il y a tout un livre de la Bible, si vous n'êtes pas encore convaincu, qui s'appelle « Les Lamentations ». Donc bon, si Dieu décide que c'est OK d'avoir un livre entier, quand il se révèle à nous, qui s'appelle « Lamentations », crois-moi, tu as le droit de vivre des moments durs. Les psaumes, qui sont sans doute un des livres les plus connus de la Bible, un des livres les plus cités et le plus grand livre de la Bible avec 150 chapitres. Plus de la moitié des psaumes, c'est des lamentations. C'est David qui dit « Mais jusqu'à quand ? Je suis fatigué, mais j'en ai marre, mais pourquoi ?» Il y a un psaume qui m'a toujours surpris, je n'ai plus la référence, mais il dit « J'ai pleuré, je ne savais pas que c'était des oreillers à l'époque, mais il dit « J'ai pleuré, mon oreiller trempe le matin. » Mais c'est quoi ces pleurs-là ? Ça, c'est des pleurs de gens qui se jettent de la cendre sur la tête, c'est sûr. Comment tu pleures toute la nuit dans ton sommeil au point que le matin tu te lèves, tu dois essorer ton coussin, tu... Ah, c'est vraiment une période difficile en ce moment, tu sais. Comment ça va toi ? Bah, c'est assez chaud. Écoute, deux oreillers la nuit passée, deux oreillers, tu sais. C'est quoi ces pleurs-là ? Mais c'est même David. La Bible nous dit que c'est l'ami de Dieu. Et il n'a jamais eu peur de dire « Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis dépassé. Seigneur, c'est difficile. » Parce qu'il savait que Dieu l'accueillait comme ça. Puis il connaissait le cœur de Dieu. Et au passage, il a fait tout ça, mais il n'est jamais resté là-dedans. Il n'est jamais resté là-dedans. Il terminait toujours en disant mais je sais que, hé, hey, t'es mon réconfort, t'es mon rocher, t'es mon refuge. Je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut absolument qu'on apprenne, les amis, à se lamenter et à célébrer. Maintenant, je termine avec la célébration. Je suis impatient de vivre, parce que j'ai la semaine prochaine, on marie quelqu'un qui vient du Danemark. Et c'est juste énorme, ouais, quelques-uns ici le connaissent. On se réjouit de ça, on se réjouit. Et quand il me parlait de comment il faisait, de toutes les choses qu'il avait à faire pendant le mariage, j'ai dit, mon sang, je ne vivrai plus jamais un mariage de la même façon. Il y a des manières tout du long. Tu sais, nous, aujourd'hui, dans les mariages traditionnels en Suisse, on a quelques animations qui sont drôles, un peu, qui mettent souvent les mariés mal à l'aise, comme si le but, c'était de les mettre mal à l'aise le jour de leur mariage. Tu sais, on va se venger, tu sais. Mais lui, il me disait, non, il y a un moment fou où on me coupe un bout de la chaussette et puis tous les hommes me portent et me célèbrent. Je dis, mais c'est quoi, on coupe un bout de ta chaussette? Mais pourquoi? Il m'a dit, je sais pas, on fait la fête. Après, il m'a dit, ouais, à un moment donné, quand les gens tapent dans leur verre, quand ils veulent, on doit se lever, on doit faire un truc avec ma femme. Je dis, mais c'est incroyable. La prochaine fois que je marie quelqu'un, il y en a plusieurs qui sont concernés dans la salle, on va faire la fête à votre mariage. On va vous soulever, on va vous porter sur la... On va dire, allez, brisez un verre. On paiera le verre, vous en faites pas. On amènera le verre. Allez, brisez un verre avec le pied, ouais. On va danser, on va célébrer. On va célébrer. Honnêtement, quand tu penses au mariage, beaucoup, je sais, vous pensez aux finances. Si tu payes des 15, des 20, des 30, des 40 000 francs, au moins qu'on célèbre un peu plus que comme ça. Ça fait cher l'applaudissement, j'ai envie de dire. Faut qu'on fasse la fête, faut qu'on se marre, faut que tu t'en souviennes aussi de tous ces moments qu'on avait ensemble. Tu garderas une chaussette trouée, tu diras, ça c'est mes amis au mariage, ils m'ont troué la chaussette. Mais pourquoi ? Mais on faisait la fête. On faisait la fête. J'ai terminé et puis j'aimerais prier pour nous tous. Parce que j'ai besoin de ça aussi, tout comme vous. Je vous ai dit, j'ai eu une semaine avec des très hauts et des très bas. Avec Janet, c'était difficile. Hier, l'entre-deux de la journée, j'ai dit, j'ai besoin de fermer les yeux un instant parce que émotionnellement, je me sens vidé. Je me sens vidé d'avoir été d'un côté jusqu'à l'autre, d'un extrême à l'autre, de pleurer la perte, le deuil, la souffrance, et puis de préparer la réjouissance, l'excitation, les photos. J'ai besoin de fermer les yeux, j'ai besoin comme vous d'apprendre ça. J'ai besoin comme vous de reconnecter avec mon cœur, de pouvoir vraiment me célébrer, vraiment aussi pleurer quand il faut. Mais avant que je prie pour chacun de nous, j'aimerais vous demander de faire de nouveau 20 secondes de silence et vous reposer la question que j'ai posée avant. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Et prends le temps de réfléchir à ça. Et s'il y a des choses qui te pèsent, dis au Seigneur, ça m'énerve cette situation. Dis au Seigneur, c'est dur cette situation. Et Seigneur, je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire, mais là, je ne vois pas trop vers où on va. Et nous, on va pleurer avec toi. Puis si tu veux te réjouir, si tu veux te lever, taper des mains, dire merci Seigneur, tu as aussi le droit de ça. Prenons quelques secondes pour reconnecter avec nos émotions et être pleinement présent. Seigneur, protège-nous de vivre une satisfaction désengagée. Seigneur, on veut s'appuyer sur toi, on veut reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont extrêmement joyeuses, puis il y a des choses qui sont extrêmement difficiles aussi. Puis je te demande, Seigneur, qu'on puisse réengager avec là où on en est maintenant. Qu'on puisse être convaincu que tu es là, convaincu que tu es avec nous, convaincu que tu marches avec nous. Qu'on puisse arrêter de vouloir juste toujours tout maîtriser. Puis qu'on soit d'accord de te faire confiance. Pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, des situations d'incertitude, des situations de peine, des situations de questions, des situations juste de tristesse, Seigneur, on veut pleurer avec eux. On veut leur dire c'est OK que ce soit difficile, on ne vous demande pas d'avoir la bonne réponse parfaite, d'avoir la juste explication. On vous demande pardon si on a juste voulu vous dire ça va aller, tranquille. Pleurez pas trop. Puis on veut pleurer avec vous. Pour tous ceux qui se réjouissent, qui viennent de réussir peut-être leurs examens, qui viennent de se marier ou qui vont se marier tout prochainement, qui vivent des moments de fête, de réjouissance, on veut se réjouir avec vous. Pas simplement vous applaudir, mais on veut vous célébrer, on veut croire que c'est bon ce qui se passe, on veut arrêter ce qu'on fait, puis comme Dieu qui demande au peuple de prendre un temps pour faire la fête, on veut nous aussi s'arrêter puis faire la fête avec vous. Seigneur, fais de nous des chrétiens qui engageons de nouveau avec notre propre cœur, afin qu'on puisse faire la différence que tu nous appelles à faire là où tu nous as placés. Dans le nom de Jésus. Amen.
Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci vous encouragera et vous équipera. Plus d'informations sur notre église, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.